Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on vous emmène dans les grands centres commerciaux de la planète, dans une école inoue du Canada et autour d'un piano pour un peu de douceur. C'est un coup de cœur de la librairie francophone. Naomi Fontaine raconte la vie d'une enseignante dans une école inoue de la Côte-Nord. Un récit poignant qui entrecroise les difficultés sociales, la solidarité, l'éducation et la culture salutaire. Un petit chef-d'œuvre dont nous parlerons dans un instant avec Naomi Fontaine qui est dans notre studio de Québec. Nous allons aussi vous apaiser, vous réjouir, je l'espère, grâce à une histoire qui rend hommage au piano de Chopin. Éric-Emmanuel Schmitt publie une histoire personnelle qu'il présente d'ailleurs en France ce week-end dans une création au théâtre. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais bien, parce qu'en ce moment je vis en compagnie de Chopin.
Ouais.
Donc j'ai le cœur qui palpite, tout est beau.
Madame Pilinska et le secret de Chopin raconte comment vous vous êtes passionné pour les compositions de Chopin. Qu'est-ce qu'il a de particulier Chopin ?
Il m'a appris l'intimité. Et du coup, c'est mon maître d'écriture aussi, c'est-à-dire Chopin n'écrit pas pour faire du bruit, pour fasciner les foules, les masses, mais il s'adresse toujours à un individu. Mmh. Il parle à toi, à moi, à elle, il est dans l'intime. Et quand on écrit, c'est aussi ce qu'on recherche.
Bien, il y a un grand piano noir dans notre studio, regardez. Mmh. Nous verrons si vous oserez vous y installer tout à l'heure. Il est prêt en tout cas, hein, vous avez vu,
lui est
installé.
Prêt. Lui est prêt.
Et puis nous irons dans de gigantesques centres commerciaux. La Suissesse Rini Gremaud a parcouru le monde pour faire un état des lieux de ces temples de la consommation.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires nous accompagnent, vous accompagnent pour cette émission. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes l'effervescente libraire de notre émission, installée à Baudry dans la librairie Une Petite Prose. C'est vrai, non ? Un peu ?
Absolument.
Comme un cachet de vitamine C. On remonte vers le nord, le presque grand nord, et on atterrit en Belgique à la Hulpe mondialement célèbre. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire.
Le grand nord.
Le grand nord.
Il y a des rennes et tout.
Les rennes, non, c'est pas chez vous. Vous êtes libraire dans la librairie de la Mazerine. Le Canada, et là il y a des rennes notamment, est représenté par Marie-Hélène Vaugeois à Québec. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Vaugeois. Et enfin, bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous n'êtes pas libraire à Hausser, vous, mais à côté de Paris.
Eh oui, à Puteaux.
Je ne l'avais pas encore fait celle-là, je suis désolé.
Non mais ça va, ça passe.
Ça va, ça passe. À Puteaux dans la librairie Lamandier. Merci d'être avec nous. Bonjour Rini Gremaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une jeune auteure suisse née en Corée du Sud. Nous parlerons de la société de consommation et de ces grands espaces commerciaux qui jalonnent le monde. Mais on commence cette émission, comme chaque semaine, par une anecdote personnelle. C'est vous qui avez cette charge aujourd'hui. Vous avez carte blanche. Que voulez-vous transmettre, Rémi ?
Oui, alors j'y ai brièvement réfléchi. Et puis, en fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'étais née dans une centrale nucléaire. Alors j'avais envie de vous le raconter, puisqu'en fait, ma mère a effectivement rencontré mon père sur le chantier d'une centrale nucléaire qui était la première construite en Corée du Sud. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais née là-bas parce que tout récemment, le président sud-coréen Moon Jae-in a annoncé qu'il allait sortir son pays du nucléaire. Et donc, comme premier geste fort de cette nouvelle politique énergétique, il a décidé de débrancher ce premier réacteur 40 ans après sa première mise en service. Et puis, c'était l'année de mes 40 ans. Et puis, tout d'un coup, j'ai fait la connexion. Je me suis dit, tiens, c'est la centrale nucléaire où je suis née.
D'accord. Donc, voilà. Vous êtes un peu radioactive.
Alors, non, ça n'a pas trop d'effet sur ma santé, figurez-vous.
Non, je ne parle pas de votre santé, c'est votre état d'âme.
Vous pensez qu'il y a quelque chose qui émane de moi comme ça ?
Vu ce que vous avez fait, on en parlera tout à l'heure, oui, je pense que vous êtes un peu radioactive.
Ou alors je brille dans le noir,
oui,
je ne sais pas.
Oui, dans le noir. Merci pour cette histoire. Rini Gremaud est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Naomi Fontaine.
Bonjour.
Vous publiez l'un des meilleurs romans qu'on ait eu à lire cette année. Mani Canetti, est publié par les éditions Mémoire d'Encrier. Pourtant, ce livre divise un peu nos libraires quand même, nous l'entendrons tout à l'heure. Une jeune femme qui a quitté son village Innu il y a 7 ans revient pour y enseigner le français. Elle laisse son compagnon et prend le risque de perdre tout ce qu'elle a construit jusque-là. Pourquoi ce retour aux sources, Naomi ?
Ben, en fait, je pense que c'est un retour obligé ici. On n'imagine pas la force d'une communauté. Quand on a quitté jeune une communauté, on dirait qu'on a comme l'envie toujours d'y retourner. Dans les communautés autochtones au Québec, c'est des liens tissés très, très serrés. Je pense qu'on le voit un peu dans le livre aussi. Puis, il y a toujours cet instinct-là aussi, parce que comment on entend parler de ces communautés-là lorsqu'on vit en ville, à Québec, à Montréal, c'est toujours d'une façon très, très négative, pleine de préjugés, de stéréotypes. Puis, on a comme cet instinct-là. C'est l'instinct qui la pousse, en fait, à retourner dans sa communauté, à Wahat. Elle pense qu'elle va sauver les gens. Elle pense qu'elle va aider. Elle veut redonner à la communauté. C'est un peu ça qui l'attire au départ.
Et c'est vous aussi qui avez fait ce parcours-là? Vous l'avez fait, ce parcours?
Oui, moi j'ai grandi à Québec. Je suis née dans une réserve Innu sur la côte nord. J'ai grandi à Québec, je suis déménagée, j'avais 7 ans. Puis j'ai étudié, j'ai fait mon bac en enseignement. Puis clairement, pendant que j'étudiais, moi je m'imaginais mon retour. Il y avait quelque chose qui me manquait profondément de ma famille, de ma parenté, de ma culture, de ma langue, tout ça. Alors c'était clair que je retournais chez moi.
Alors cette école Mani Kanetich, qui signifie « petite marguerite » en hommage à une femme qui a élevé des dizaines d'enfants, qui n'étaient pas les siens, est une école difficile, drogue, indiscipline, violence, elle existe vraiment cette école, et les élèves, là dans votre histoire, tutoient l'enseignante, mais l'appellent quand même madame. Et c'est la seule chose qui les tient à distance, car ils ne sont pas tellement plus jeunes que la prof. Elle navigue à vue, un peu comme vous, je suppose, quand vous avez été enseignante dans cette école. Elle dit « j'improvisais constamment ».
Oui, exactement. Mais vous savez, en langue innu, il n'y a pas de distinction entre le « vous » et le « tu ». Alors, ce n'est pas comme ça que nous, on marque le respect. Même nos grands-parents ou les personnes âgées, on les vouvoie pas jamais. Au contraire, le vouvoiement, c'est quelque chose qui est perçu comme quelque chose de plutôt négatif, je dirais, chez les innu. Mais il y a d'autres façons de marquer sa politesse. Par exemple, de se taire quand on te parle, de ne pas rouspéter. Les différences culturelles qu'on perçoit peut-être négativement, d'un côté peut-être blanc, je dirais, dans le livre. Pour nous, c'est des choses très, très naturelles. Par exemple, les gens me parlent souvent de la grossesse, les filles mères, les jeunes filles qui tombent enceintes. Puis, pour nous, c'est quelque chose de très, très naturel de donner la vie. C'est pas quelque chose qui vient nécessairement mettre des freins ou, je sais pas, une barrière.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles mères, d'ailleurs, dans le livre. C'est assez troublant parce que la plupart des élèves ont des enfants déjà. Alors, c'est très particulier. Comme ça, on assiste vraiment, Naomi Fontaine, au fil des pages, à la façon dont cette enseignante va gagner la confiance, le respect et même parfois l'affection de ses élèves. C'est très beau, c'est très dur, car il y a souvent des drames familiaux qui touchent les élèves de cette école. Il y a Marc, par exemple, qui va perdre sa mère soudainement et l'enseignante est désarmée, elle est bouleversée, elle n'arrive pas à réagir.
Exactement. Puis quand ça arrive, ces choses-là, je veux dire, la première chose à laquelle quelqu'un pense, c'est à sa propre mère. Moi, j'ai vu ces jeunes-là, par exemple, Marc, qui est un élève réel qui a existé, que j'ai changé un peu son nom, quelques histoires, quelques faits dans l'histoire. Mais quand j'ai vu mon élève revenir après une semaine, mais je me suis dit, comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'un jeune peut avoir cette détermination-là ou cette résistance-là à ce drame-là qu'il vit, la chose la plus difficile que peut-être il va vivre dans toute sa vie, de croire encore que ça vaut la peine, que ça vaut la peine de se présenter en classe, que ça vaut la peine d'apprendre le français. C'est une enseignante de français. C'est ça que je voulais surtout raconter. Ouais. C'est cette résistance-là de ces élèves-là qui affrontent des choses que même des adultes auraient de la misère à affronter en réalité. Ouais. Un adulte pourrait péter une dépression après ce qu'eux vivent. Si vous voulez la suite de cette histoire-là, cet élève-là aujourd'hui est rendu à Québec et est toujours aux études. Ouais. Alors, vous voyez, ça, c'est des choses qu'il fallait raconter. Ouais. C'était plus fort que moi.
Marc, qui va être l'élève dont tout le monde va prendre soin, et puis un jour, au cours d'une sortie autour d'un feu, tous ensemble, dans la nature, l'enseignante leur demande de quoi ils s'ennuient le plus en ce moment. Tous répondent, et c'est au tour de Marc. Naomi Fontaine.
Oui, en fait, lui, il dit, est-ce que vous voulez quelque chose de joyeux ou vous voulez quelque chose de triste? Puis là, on lui dit, parce que dans la forêt, c'est une autre ambiance, il y a des nouveaux liens qui se tissent. Tu laisses tomber tous tes masques. Et on lui dit, on veut seulement la vérité. Ouais. Puis alors là, il dit, je m'ennuie de ma mère. Ouais, puis là, on réalise que la vie va nous rattraper de toute façon. Nous, quand on parle de la forêt, c'est pas sur le bord d'une route, c'est vraiment très loin, c'est vraiment isolé, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de toilette, c'est la paix totale, en fait. Puis en tant qu'Innu, certainement, ça nous réconcilie à notre culture, à notre identité.
Trois libraires ont lu votre livre, Naomi Fontaine, La France, la Belgique et la Suisse. On commence par la Belgique avec Annick Dore.
Oui, alors moi je vais être honnête, j'ai pas été particulièrement séduite par l'écriture.
Ah
hein,
bon,
la forme m'a moyennement convaincue, j'avoue. Mais en revanche, pour avoir enseigné au début de ma carrière, j'ai retrouvé toutes les appréhensions d'un jeune professeur qui, voilà, malgré son manque d'expérience, doit faire face à la détresse, aux difficultés de la vie des lycéens. Et c'est vrai que dans le roman, vous montrez vraiment très bien le côté improvisation, un peu bricolage du professeur qui débute. Et donc, quelque part, malgré le fait que vous mettez en avant une communauté particulière, la société Innu, le propos est quelque part plus universel qu'il n'y paraît.
Exactement. Thomas Hausser, en France, vous êtes séduit, vous?
Ah oui, totalement. Écoutez, moi, j'ai été tout de suite embarqué dans cette chronique d'apprentissage, à la fois sociale et à la fois traitant de changement de vie. C'est un texte qui m'a surpris. L'auteur arrive à dire beaucoup de choses avec très peu. Ça flirte avec la poésie, c'est habité. Moi, c'est un texte qui m'a transporté dans cette réserve, avec cette classe, ses élèves, leur quotidien. Je suis vraiment très content d'avoir découvert Naomi. Hein. Je vous remercie.
Formidable, Naomi Fontaine.
Oui, merci. c'est correct que ce soit partagé. J'ai pas de problème avec ça.
Il y en a une autre, c'est Dominique Bresson, on va lui donner la parole dans un instant parce qu'il y a un autre drame qui va frapper la classe de cette école avec le suicide d'une élève. Et alors il va falloir essayer de consoler comme ça les amis et la sœur de cette élève disparue, mais la classe va réagir avec une solidarité incroyable. Vous racontez qu'ils sont en train de monter une pièce de théâtre, le Cid de Corneille, dans une réserve Innu, je le rappelle, dans cette école, et ils ne vont rien changer. Ils vont attendre jusqu'au dernier moment les plus fragiles, ceux qui se sont mis en retrait parce qu'ils ont confiance en eux. Ils savent qu'ils vont surmonter la douleur et qu'ils vont revenir.
Exactement. Je pense que ce que je voulais surtout raconter à travers le suicide, c'est pas tant la personne qui part, c'est ceux qui restent. Le suicide, c'est une réalité qui existe malheureusement trop souvent dans nos communautés. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est raconter comment les gens survivent à ce qu'on choisit la vie. Puis c'est un peu l'histoire de la sœur, puis c'est l'histoire du groupe aussi qui croit encore que c'est possible, que c'est ça, que ça vaut la peine de continuer.
Ouais. Dominique Bresso, pour la Suisse, vous voulez intervenir?
Oui, moi je dois dire que j'ai été un petit peu déçue en fait. Ce qui m'a choquée, c'est le contraste entre la spécificité reconnue et assumée des jeunes issus d'une culture Innu et le choix du Cid, en fait, comme pièce de théâtre à jouer.
Ah bon?
Parce que très franchement, imposer l'impérialisme français, même dans une réserve andienne,
non,
je trouve ça un peu...
Non, mais
voilà.
L'impérialisme français, mais quel rapport avec le Cid?
Mais oui.
Non mais franchement, mais non, le Cid de Corneille.
Pour moi, d'autres pièces plus accessibles, ça aurait été peut-être plus respectueux de leur culture, pour leur confiance en eux-mêmes. Et en fait, je vous ai dit, c'est très très personnel, mais le petit côté hollywoodien de ces jeunes qui n'aiment pas les cours de français, mais qui apprennent par cœur les répliques du Cid en un temps record, moi j'ai du mal à... j'adhère pas. Enfin, je trouve peu crédible.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, on va laisser répondre rapidement Naomi Fontaine.
Oui, en fait, moi ce que je voulais, c'est... Parce que, on s'imagine... Vous savez pas c'est quoi une réserve? Une réserve, c'est un endroit qui est... C'est un endroit qui est cloisonné. On est toujours entre nous. On est toujours en train de parler de nos problèmes. Puis on a le regard tourné vers nous. Moi, ce que je voulais, c'était une pièce. Peut-être que c'est idéalisé, le Cid, mais je voulais une pièce qu'on sorte, qu'on respire l'extérieur.
C'est qu'on ressent,
qu'on puisse s'ouvrir. Oui, c'est ça.
Ben oui.
Je voulais quelque chose de très, très éloigné de leur réalité.
C'est complètement
parce que
ça.
L'art doit servir à ça, d'après moi, à découvrir, à avoir une autre vision du monde.
Bien. Non, vous avez raison, Dominique Bresso. Voilà, on vous a répondu. Dominique, vous êtes là? Ah oui.
Oui.
Ça s'est pas évanoui, non, ça va.
Bon.
Et puis il y a Rodrigue. Alors Rodrigue, c'est l'un des élèves les plus compliqués qui va peu à peu s'adoucir. On assiste à la transformation morale de Rodrigue et grâce à lui, beaucoup de choses vont se déclencher pour l'enseignante et pour la classe. On va pas tout raconter, mais on va écouter un extrait de votre livre, Naomi Fontaine. C'est une surprise pour vous. Il y a un auteur qui a accepté de lire une lettre que vous adressez à Rodrigue à la fin du livre. Sur la bande originale de votre roman, vous avez choisi une musique, vous avez choisi le groupe québécois Cachetine. Et c'est Éric Emmanuel Schmitt qui va lire votre texte, Naomi.
Oui, merci, waouh.
Allons-y, écoutons.
Cher Rodrigue, mon rebelle, qui aurait cru que ça finirait ainsi? Tu n'en as pas l'air aujourd'hui lorsqu'on te voit, pas l'air d'un gars qui crierait après moi. Et je ne peux pas m'empêcher de croire que
j'ai contribué à ma mesure à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir. Assidu, sérieux, travaillant. Comme je suis fier de toi. C'était peut-être ça, Manika Nettiche, après tout. Ce que voulait nous léguer la petite Marguerite. Elle voulait nous apprendre ce que devait être réellement l'enseignement. Élever les enfants des autres, leur tendre les bras, les aimer. Devant toute chose, désirer les voir devenir grands. Ça m'a pris du temps à comprendre Rodrigue. Mais maintenant, je sais. Moi aussi, j'avais des barrières à abattre.
Très émouvant cette lecture, Eric Emmanuel Schmitt qui est ému lui-même. Naomi Fontaine, votre réaction.
Merci, merci, un grand, grand merci. Vous êtes, je vais parler à Monsieur Schmitt, vous êtes un auteur que j'admire depuis très, très longtemps. J'ai fait lire vos livres à mes élèves. De vous entendre lire cette partie de Rodrigue, c'est un grand cadeau.
Bien.
Ben pour moi aussi, c'est l'aller-retour.
Bon, magnifique. Merci beaucoup. Je suis très ému aussi. Naomi Fontaine, il y a toujours dans une classe un élève qui a un potentiel, qu'on ressent au fond de soi. Un élève auquel on s'attache sans vraiment comprendre pourquoi. C'est très étrange comme sensation, mais quand on a enseigné à un moment ou à un autre, quand on a donné une leçon à une classe, on s'aperçoit de ça et on vit ça.
Oui, exactement. Puis je pense que c'est l'essence de l'enseignement, c'est de croire en ces jeunes-là. Si on n'y croit pas, si on ne croit pas qu'ils sont capables de plus de ce qu'ils nous donnent en ce moment, si on ne croit pas que malgré tous les stéréotypes qu'on peut avoir, les préjugés, si on ne croit pas en eux, ça ne sert à rien d'essayer de leur enseigner des règles de grammaire ou des règles de... Moi, je crois que c'est l'essence de l'enseignement.
Voilà, vous avez tout dit. Merci beaucoup Naomi Fontaine. On va saluer tous les enseignants, ils sont très nombreux qui nous écoutent à travers le monde, et saluer leur travail formidable au quotidien avec tous les élèves du monde. Merci Naomi Fontaine.
Je vous remercie.
Manika Nettiche est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est un livre magique qui nous fait réfléchir sur la vie et sur ce que l'on peut apporter aux plus jeunes. Il faut lire ce livre, c'est notre coup de cœur à la rédaction de la librairie francophone, même si les libraires ne sont pas tout à fait d'accord. C'est le débat culturel, c'est comme ça. Merci Naomi, à bientôt. À suivre le roman Confidence d'Éric Emmanuel Schmitt autour de la musique de Chopin avec une professeure de piano très très particulière, une histoire qui va vous surprendre. Et voici la musique orientale de Rachid Taha avec une reprise d'une grande chanson populaire algérienne dans votre librairie francophone.
مولع بعد الغفلين قبلك وقبلي
Rachid Taha, Ya Raya, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Éric Emmanuel Schmitt est dans la librairie pour son nouveau roman Madame Pilinska et le secret de Chopin. Vous êtes ce week-end au Festival du Livre de Nice, Éric Emmanuel. En tant que président du festival, vous y présenterez ce roman d'ailleurs. Est-ce un roman ou un récit personnel? Clarifions tout de suite.
Moi je suis pas très doué avec les genres, je suis profondément transgenre quand j'écris. Parce que d'un côté
c'est un conte... Ça commence bien les confidences.
Non mais d'un côté c'est un conte initiatique. Oui. En même temps il a une dimension totalement personnelle. Puisque ouais. Le héros qui s'appelle Éric Emmanuel, oui, c'est bien moi, et il a un aspect romanesque, voilà, je sais pas, les textes sortent avec leur singularité, moi j'aurais du mal à classer. En tout cas, je l'ai mis dans le cycle de l'invisible, c'est-à-dire toute cette série de textes où il y a Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ouais, l'Enfant ouais. Doué, qui sont des textes où chaque fois est considéré l'apport du spirituel dans nos vies. Et là... Ce qui était important pour moi, c'était de marquer que tout d'un coup, le spirituel, ça peut être la musique elle-même.
Voilà. Il y a un intrus dans cette maison, dans votre maison. Cet intrus, c'est un piano. Un piano droit sur lequel votre sœur joue.
Oui.
Ça, c'est vrai, ça.
C'est vrai. Ma sœur est une brillante biologiste, mais elle n'est pas devenue une brillante musicienne. Ça se voyait déjà très jeune. Et donc, voilà, moi, je détestais le piano parce que ma sœur le torturait et me torturait les oreilles. Et puis, un jour, effectivement, quelqu'un est venu à la maison, une tante qui s'appelait Tante Aimée. Et elle a joué. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que la lumière changeait, qu'un autre monde surgissait, qu'il y a un ailleurs qui venait s'installer au milieu de nous. C'était Chopin.
On va vous replonger dans les souvenirs, Éric Emmanuel Schmitt. On a retrouvé une musique que vous adoriez à l'époque. C'est peut-être même un son qui vient de votre famille. Écoutez.
Oui, c'est... Qui n'a pas subi ça?
En plus, il est massacré, écoutez bien.
Oui, bah, je sais, j'entends. Et je trouve trop fin le mire. Voilà, la lettre à Élise, conçue par un bourreau baptisé Beethoven.
Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est vrai que Chopin, quand vous l'écoutez, tout bascule. Vous détestez le piano, Éric Emmanuel, et d'un coup, vous tombez en pâmoison, comme ça, devant l'œuvre de Chopin, jouée par votre tante aimée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Éric Emmanuel, à ce moment-là?
Parce que Chopin, c'est le piano. Chopin n'a pas cherché à faire autre chose que d'écrire pour le piano. Il s'est confiné dans le piano, il en cherchait la poésie, il en cherchait les harmonies, les timbres, les couleurs. Et donc, on peut vraiment dire qu'il a inventé le piano romantique. Et donc, c'était l'essence même du piano qui m'était délivré. Vous voyez, là, on a entendu Beethoven, son mode d'expression, c'est l'orchestre. Le piano est, une marche, un intermédiaire, un tremplin.
Écoutons le vrai piano de Chopin. Chopin, interprété par Lang Lang, que vous connaissez bien sûr, grand pianiste. Il faut apprivoiser Chopin. Chopin est le peintre de la musique, tandis que Bach est un simple dessinateur. Chopin insiste sur les sonorités, les reliefs des timbres, les progressions des harmonies. Il entend chaque instant de chaque son. Il vit la musique avec son corps. C'est ce que je résume de votre livre. C'est pas vous qui l'écrivez, ça. Mais c'est ça.
C'est ça.
C'est exactement ça.
La première fois où j'arrive chez cette Madame Pilinska, j'ai 20 ans. Moi, je fais des études de philosophie à Paris. Mais je veux résoudre le cas Chopin parce que je joue du piano, mais toujours pas bien Chopin. Et je trouve cette professeure, Madame Pilinska, polonaise émigrée à Paris, dont le premier cours consiste à me dire « Étendez-vous sous le piano ». Elle me dit « Chopin a commencé comme ça quand il était petit. Il s'étendait sous le piano de sa mère et il ressentait les vibrations ». Parce que la musique, c'est physique. Alors tout d'un coup, c'est plus avec l'intellect qu'on doit percevoir les choses. Et puis après, elle m'entend jouer, elle m'arrête immédiatement. Et elle me dit, bon, vous ne touchez plus un piano pendant une semaine, mais vous allez tous les matins au jardin du Luxembourg et vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Parce qu'elle voulait que j'aie un toucher délicat, que mes coussinets deviennent moelleux, fiables, liés à tout mon corps. Elle me demande aussi d'écouter le silence. Parce que la musique, elle sort du silence et elle y retourne. Elle en est cousue. Même de silence. Et puis elle me demande de faire des ronds dans l'eau pour observer comment un son, c'est-à-dire en l'occurrence une onde, un rond apparaît, se propage et meurt. Bref, ces leçons sont cosmiques et au fond, elles dégrossissent le jeune homme que j'étais, en me rendant délicat, ce qui n'était pas du tout ma caractéristique principale.
Et vous avez parlé sur les rythmes du piano de Chopin. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu.
Non.
Mais avec la musique qu'il y avait derrière, vous étiez comme ça dans le tempo.
C'est ah ouais, on est de plus en plus amis alors, avec Chopin. Je suis content.
Mais elle vous dit que vous êtes balourd.
Mais
vous n'êtes pas assez souple et en plus vous êtes un intellectuel. Elle dit vous faites des notes, pas des sons, vous êtes outillé pour Bach.
Oui, des mathématiques musicales, comme elle dit, normal pour un cérébral. Oui. Mais oui, parce que Bach concevait la musique, entre guillemets, indépendamment des sons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'exécute très très bien sur des instruments tout à fait variés, aussi bien au clavecin qu'au piano, qu'au xylophone, etc. etc. Tandis que Chopin, lui, pensait la sonorité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas quitté le piano. Donc c'est pas une preuve de pauvreté, c'est au contraire une preuve d'une musique pensée dans sa totalité, ses couleurs, ses timbres.
Et il faut apprendre à devenir liquide.
Oui.
Comment devient-on liquide, Eric Emmanuel Schmidt?
Eh ben voilà. De toute façon, en art, mais dans beaucoup de choses, vous allez me dire peut-être en sport aussi, il faut à la fois apprendre à se concentrer et à se déconcentrer. Et il faut apprendre à se concentrer parce qu'on doit résoudre des difficultés qui sont intellectuelles et techniques et physiques parfois. Et puis en même temps, une fois qu'on a dépassé ces difficultés, il faut apprendre à se déconcentrer, c'est-à-dire à laisser advenir les choses.
Regardez Eric Emmanuel Schmidt dans notre studio, là au fond.
Un intrus.
Il y a un intrus, un bel intrus. Hein. Piano quart de queue, je crois, c'est ça. Piano noir. Qu'est-ce qu'on fait? Vous y allez ou pas?
Quelques secondes alors.
Allez-y.
Et puis Madame Pilinska n'est pas là, donc
Allez-y.
Ne m'engueulera pas.
Allez-y. Eric Emmanuel Schmidt s'installe au piano dans la librairie francophone. Je vous rappelle son livre, Madame Pilinska et le secret de Chopin aux éditions Albin Michel. Les Niçois auront la chance de le voir donc ce week-end avec une adaptation au théâtre.
Après ça, Madame Pilinska m'interdit de jouer pendant 2 semaines.
Oui, c'est ça, exactement. Alors revenez, merci beaucoup Eric Emmanuel Schmidt. C'est vrai que cette Madame Pilinska, elle est un peu particulière parce qu'elle ne veut pas que ses élèves jouent au piano, mais elle vous apprend autre chose. La vie.
Ben oui, c'est une éducation sentimentale. Parce que ça commence, un jour, elle a une porte pour rentrer dans ma vie la plus intime. Elle me dit, bon, vous êtes trop raide. La prochaine fois, revenez après avoir fait l'amour.
Oui.
Et puis elle précise, attention, hein, pas l'amour solitaire, l'amour avec quelqu'un. Vous avez ça sous la main? Bon. Alors moi, premier de la classe, j'obéis. Le samedi suivant, j'arrive, après avoir bien suivi ses recommandations.
Mmh, vous le dites,
et effectivement, je joue un petit peu mieux. Parce que, voilà, il y a une espèce de lassitude exquise qui est en moi. Et elle me dit, oui, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça. La prochaine fois, regardez votre partenaire dans les yeux. Et alors là, évidemment, je fais la chose qu'il ne fallait pas faire. Je fais ça, je regarde dans les yeux et je tombe amoureux. Et à ce moment-là, je progresse parce que j'ai consenti à l'amour et je vais pouvoir consentir à la musique. C'est-à-dire, je me suis abandonné. J'ai accepté d'être dépassé par un sentiment plus ample et plus fort que moi, ainsi qu'au piano, d'être dépassé par une émotion, un art plus grand et plus fort que moi.
Il y a de la sensualité, il y a aussi un peu de sexe dans ce livre. On va en parler tout à l'heure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de sexe dans cette émission. Avant cela, les 3 libraires se sont penchés sur ce récit, Eric Emmanuel, le Canada, la France et la Belgique. On commence par qui? Ah, le Canada, la France et la Belgique, c'est dur pour vous.
C'est moi qui dois...
Oui.
Ah, on va commencer par le Québec.
Le Québec. Marie-Hélène Vaujoie.
Ben, quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre. Madame Pilinska, c'est une adorable insupportable. Ces leçons nous rappellent qu'il faut savoir regarder le monde avant de pouvoir le vivre, et tant aimé. Quelle femme touchante! Une lecture où l'émotion montait au fil des pages avec une magnifique finale. Vraiment, merci.
Bien. La France ou la Belgique?
Eh bien, on va se rapprocher de la France, on va aller en Belgique.
Ah, la France en dernier, Camille Schmitt.
Non, pas en dernier.
Si, si, la France en dernier. Le pauvre. Non, je plaisante, c'est très difficile,
c'est
on ne peut pas choisir.
C'est horrible. Vos commentaires.
Non, je suis pervers. Allez, Annick Dor en Belgique.
Oui, alors c'est vrai que moi, il y a d'autres de vos livres que j'ai préférés à celui-ci. Le point positif, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le portrait de cette professeure de musique fantasque et singulière, désagréable et drôle à la fois, et qui a une pédagogie en effet bien à elle. En revanche, j'avoue que les discussions sans fin sur les différences entre Chopin ou Liszt, ou bien sur la contribution de Georges Sand dans l'œuvre de Chopin, ça m'a un petit peu lassée et ça m'a donné, alors j'espère que je ne vais pas vous vexer, mais la désagréable impression d'un étalage de connaissances. Et donc moi, je ne suis pas plus enthousiaste que ça, vous l'aurez compris. Et en même temps, voilà, j'ai une collègue, par exemple, qui a adoré comme quoi tout ça est très subjectif.
Oui, c'est le principe.
Si vous saviez comme je me suis retenu, enfin, j'aimerais ne pas mériter cette critique, mais je peux très bien l'entendre tout à fait, parce que je n'aime pas du tout l'étalage des connaissances, effectivement. J'aime pas les cuistres.
Thomas Auxerre.
Alors moi, je suis un peu mitigé aussi, voire partagé après la lecture de votre livre,
Éric
Emmanuel. Alors d'un côté, je l'ai trouvé un petit peu long à démarrer, puis j'ai pas accroché au côté loufoque et de la pédagogie de Madame Pilinska.
Ça fait 100 pages quand même.
Pas trop parlé. Oui, mais alors d'un autre côté,
ça démarre vite.
C'est plaisant à lire, Emmanuel. C'est taillé comme une nouvelle, et puis la fin apporte, comme dans un joli conte, un beau soupçon de philosophie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'invite les auditeurs à se faire leur opinion, notamment s'ils ont des lecteurs adolescents autour d'eux, parce qu'à mon avis, ça peut aussi tout à fait coller.
Oui, c'est vrai que c'est un peu édité comme La Bibliothèque Rose. Enfin, je veux dire, c'est un livre assez court, c'est une grande nouvelle, et Albin Michel l'a édité un peu tout public.
Ben, comme le cycle de l'invisible dont il fait partie, puisqu'il y a, comme je vous disais, il y a Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim. Vous savez, moi, c'est des livres, quand je les ai écrits, j'ai jamais imaginé que des gens jeunes les liraient. Mais jamais. Maintenant, ça paraît une évidence à tout le monde. Mais alors, j'ai été le premier à le découvrir. C'est-à-dire que c'est vrai que dans ces livres-là, je faisais parler des enfants. Mais j'imaginais absolument pas, vu la gravité des sujets que j'abordais, comme quoi c'était très méprisant pour les jeunes de penser que la gravité allait les faire fuir. Au contraire, ils ont envie de choses importantes et de parler de choses essentielles.
Et c'est un peu coquin. Alors, pour les ados, oui, bon, ça passe. Les enfants, un peu moins. C'est un peu coquin parce que cette Madame Pilinska, elle est très particulière. Elle raconte que lorsqu'elle vivait en Pologne, elle avait une amie cantatrice qui ne pouvait atteindre ses aigus qu'à une certaine condition.
Oui, qu'elle ait fait l'amour avant dans sa loge. Voilà. Mais alors ça, j'en connais beaucoup, je ne peux pas vous dire des noms, mais parce que pas à l'antenne, mais oui, bien sûr.
Quoi qu'ils font ça ?
Mais oui.
Pour atteindre les aigus ?
Ah ben je vous dis pas parfois l'état des maris quand les carrières s'envolent.
Non mais
je vous jure.
L'état des maris.
Mais si. Mais parce que tout simplement il faut une espèce de détente, de bien-être physique. Il faut dépasser le volontarisme et il est bien connu chez les cantatrices que faire ça avant, ça donne cette espèce de soufflant, de souplesse du sternum et du bas-ventre qui permet à l'aigu d'être moelleux, bien appuyé et en même temps souple.
Oui, vous écrivez, en fait, son mari lui chauffait ses aigus dans sa loge.
Oui, en fait c'est le contraire des sportifs, on sait très bien que les sportifs ne doivent surtout pas faire ça avant les épreuves, et dans le chant, pour les cantatrices, c'est plutôt l'inverse.
Dernière considération de cette Madame Pilinska avec les adultes sans éducation qui, selon elle, atteignent le point culminant, on va dire, parce qu'on est diffusé à un horaire de grande écoute, en 7 minutes, et les autres, ceux qui ont une éducation convenable, en 20 minutes. Voilà.
Alors ça, elle a vu ça dans les journaux, moi aussi d'ailleurs.
Décidément, vous êtes très renseigné.
Et donc, elle s'adresse au héros, c'est-à-dire à moi. Alors, elle dit, vu vos études et vos instructions supérieures, passez-y une bonne heure.
Voilà. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Madame Pilinska, alors.
Pilinska.
Et Le secret de Chopin est paru chez Albin Michel. Ce week-end, vous êtes le président du Festival du Livre de Nice et vous adaptez donc ce texte en exclusivité et en avant-première sur la scène du magnifique théâtre de Nice. Merci à vous. Dans un instant, on part dans les grands centres commerciaux du monde. Vous allez dans les centres commerciaux, vous ?
Très peu.
Vous allez rester avec nous. On va écouter l'auteur suisse Rini Gremaud. Et voici Clara Luciani avec La Grenade dans la librairie francophone.
Et je te montrerai comme je mords, comme
La chanteuse d'origine corse, Clara Luciani, La Grenade, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et Rémi Gremaud est dans cette librairie pour un monde en toc paru aux éditions du Seuil. En 2014, Rémi, vous décidez de faire un tour du monde en 5 étapes pour visiter les plus grands centres commerciaux de la planète. Et vous avez quitté hommes et enfants pour ça.
Eh ben oui, j'ai fait ça, oui.
Et vous ne culpabilisez pas trop d'ailleurs, hein. Vous dites on peut se passer l'un de l'autre.
Eh bien oui, en fait même ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à la famille, ça fait du bien au couple. Mmh. Alors effectivement c'était pour un projet qui n'était pas forcément, très agréable pour moi, puisque j'ai quand même, fait ce tour du monde qui était assez éprouvant. J'ai fait beaucoup d'heures d'avion, donc c'était pas de tout repos, mais disons en tout cas la famille va bien maintenant.
Voilà. Mais faire un voyage en solitaire, on se pose souvent la question d'ailleurs, est-ce que c'est un acte égoïste ? Surtout un tour du monde.
Je pense que oui, mais je pense que d'une certaine manière, c'est aussi salutaire. C'est-à-dire, je pense que pour être bien précisément avec sa famille ou être bien en couple, il faut savoir partir et peut-être se retrouver justement dans cette solitude.
Complètement.
Peut-être quel que soit le contexte d'ailleurs.
Alors ces centres commerciaux, on les appelle des malls. Certains font plus de 700 000 mètres carrés, soit environ 100 terrains de football, des centaines de boutiques, des attractions partout, des aquariums ou même des pistes de ski. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus au cours de ce voyage ?
Ce qui m'a marqué le plus, c'est quand même le fait qu'ils se ressemblent tous, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les enseignes sont vraiment les mêmes partout. Au fond, ce qui est assez frappant, c'est que c'est les mêmes chaînes qui défigurent les centres de toutes les villes du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans les méga-malls pour faire cette expérience-là de l'uniformisation du commerce. On peut tout aussi bien voyager d'une ville à l'autre, de Barcelone à Budapest, et faire exactement le même constat. Ce sont les mêmes enseignes.
À Séoul aussi, j'ai été surpris.
compris, on a fait un reportage avec Jean-Marie Gustave Leclésio à Séoul, parce que vous êtes d'origine coréenne. C'est incroyable, le centre-ville, avec toutes ces chaînes, on se croirait à La Défense à Paris.
Absolument, voilà. Donc on fait des milliers de kilomètres comme ça, et puis on se rend compte au fond que cette uniformisation du paysage commercial rend aussi le déplacement absurde. Et c'est ça que j'ai cherché au fond à démontrer d'une certaine manière avec ce voyage.
Vous commencez par Edmonton, au Canada, et vous dites « tout est fait pour qu'on oublie l'extérieur ».
Oui.
Le froid, la nuit, la neige, on est dans un autre monde avec des ruelles aménagées.
Alors oui, effectivement, ça c'est un peu les vertus au fond de l'air climatisé, c'est qu'on peut se trouver dans des environnements qui sont assez rudes, assez hostiles. Quand j'ai fait ce voyage, c'était au mois de janvier, il faisait moins 23, enfin voilà, il faisait vraiment très très froid à l'extérieur. Et en même temps, quand on ne fréquente que l'aéroport et le centre commercial et les hôtels, en fait on est en air tempéré, enfin en air climatisé, donc en fait on ne ressent pas les contraintes de l'extérieur.
Et voilà. Vous y rencontrez une femme qui vient tous les jours et qui dépense entre 300 et 1500 dollars par jour.
Bah oui, mais cette femme avait l'air tellement malheureuse. Alors oui, cette femme venait là tous les jours avec ses deux enfants. Elle était l'épouse de quelqu'un de sans doute très très riche, puisque au fond elle dépensait vraiment beaucoup d'argent pour au fond noyer un petit peu son désespoir dans la consommation.
Bon, on va voir du côté de nos libraires comment ça se passe après avoir lu votre livre. Au Canada, justement, Marie-Hélène Vaugeois, avez-vous aimé le livre de Rénie Gremaud?
Ah, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fascinée. Faire le tour du monde en 23 jours pour faire le tour des centres d'achat, c'est quand même un peu un projet insensé, mais c'était le meilleur moyen de nous démontrer la standardisation du magasinage de par le monde. Toujours les mêmes enseignes au même endroit. On pourrait se féliciter que ce type de consommation soit en déclin, mais ce qui les remplace n'est probablement pas beaucoup mieux, malheureusement.
Dominique Bressoux pour la Suisse, qu'en pensez-vous?
Alors moi, au début du livre, la critique acerbe du centre-ville de Lausanne, je l'ai trouvée particulièrement savoureuse et drôle.
Ah oui?
Et c'est une critique à laquelle j'adhère complètement.
Quoique Lausanne est moche.
Oui,
moi,
atroce.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors c'est incroyable, parce que c'est ce qui m'a choqué. Moi, dans le livre, j'allais y venir.
Ah non, mais c'est d'aucun l'appel une verrue urbanistique.
Oh non, mais non.
Et c'est en fait une excellente...
C'est les Suisses qui disent ça.
Absolument.
Non mais les Lausannois sont tous d'accord avec moi.
Ah oui?
Vraiment,
moi, je suis Neuchâtel, je suis aussi d'accord. Excellente introduction à la suite, ceci dit. Vous avez su par votre écriture précise et très analytique rendre votre angoisse palpable et en fait contagieuse. Alors déjà que j'évitais les grands centres commerciaux, j'ai fermé le livre en me jurant de ne plus y mettre un pied.
Vous les trouvez jolis ces malls, vous?
Ah non, ils sont épouvantables. C'est-à-dire, on peut toujours dire qu'ils sont réussis sur le plan architectural, ouais, ou sur le plan, au fond, du projet commercial. Hein. On peut toujours faire cette analyse-là. Mais moi, en tout cas, je ne m'y sens pas bien. Mais l'objectif...
Donc, ni à Lausanne, dans le centre-ville, ni dans les malls, vous vous sentez bien où, vous?
Je suis assez bien au bord du lac, en fait.
Oui,
je suis assez bien dans les grandes, enfin, face à une grande étendue,
ouais,
d'eau.
Oui, voilà. Sans commerce, c'est ça.
C'est,
ouais,
ça.
Vous les fréquentez, Eric Emmanuel Schmitt, vous dépensez beaucoup d'argent dans les malls, vous qui parcourez le monde avec...
Non, j'y vais jamais, en fait.
Jamais.
Moi, je préfère aller chez Monsieur Ibrahim, chez le petit épicier du coin ou chez le Turc, qu'aller dans des grands magasins comme ça.
Et pour acheter vos vêtements, là, vous êtes magnifique, vous avez un magnifique costume bleu.
C'est gentil, mais je choisis un tissu, j'appelle mon tailleur et je le fais parce que moi je suis un peu hors taille normale,
bon,
mais je vous assure.
Donc jamais les centres commerciaux?
Non.
Bon. Très bien, on va vous libérer, Eric Emmanuel Schmitt, parce que vous devez aller répéter au Théâtre de Nice.
Oui.
Merci beaucoup d'être venu dans la librairie
Merci
francophone.
À vous, comme toujours,
n'allez
vraiment
pas dans les centres commerciaux, restez comme ça. À très bientôt. On va partir en Chine, Rénie Gremaud, avec ces mails qui poussent, ces malls, ces mails lapsus, qui poussent comme des champignons à Pékin, au Golden Resource New Yansha Mall. 10 000 personnes y travaillent. Mais il faut savoir que les commerces de ces malls font de moins en moins recettes, car justement le commerce en ligne prend de plus en plus de parts de marché.
Alors ça, c'est un phénomène au fond dont souffrent tous les méga-malls que j'ai visités et leur manière au fond de survivre à ça, de survivre à cette utilisation toujours plus démocratisée du commerce en ligne, c'est de remplacer le commerce par le loisir. C'est-à-dire au lieu de vendre des choses qu'on peut acheter en ligne, eh bien on vend maintenant davantage d'expériences. Mmh. Alors de l'expérience de loisir un peu à la Disney, quoi, des parcs d'attractions, des casinos, mais aussi des spas, des ongleries, voilà,
oui, tout, quoi.
Tout, absolument tout, des fitness, etc. Et c'est autant de raisons, au fond, pour les familles de continuer à fréquenter ces centres commerciaux, alors même qu'ils pourraient rester chez eux en pyjama et faire leurs commandes en ligne.
Ouais, c'est ça. Et alors, on dit que le lundi est le meilleur jour pour les sites internet, car le week-end, les clients en profitent pour aller dans ces centres commerciaux et voir ce qu'ils vont acheter plus tard, moins cher, sur le web.
Ça s'appelle le showrooming, en fait, ce que vous venez de décrire. Ouais. C'est-à-dire, on va dans les centres commerciaux, on regarde, on essaye, on peut toucher. Et en fait, on rentre chez soi, on réfléchit, on compare les prix, parce que Internet a cette vertu, c'est que ça permet de comparer immédiatement le prix de ce qu'on a vu dans les centres commerciaux sans acheter, et puis de passer commande en ligne. Voilà.
On est dans un mall, justement, à Kuala Lumpur. On a trouvé un son d'un mall à Kuala Lumpur, où vous êtes allé. Je crois qu'il y a 11 centres commerciaux, 11 malls. Enfin, vous en avez visité 11.
Alors, j'en ai visité 11, mais il y en a en fait beaucoup plus que ça. Ouais. Je le dis, c'est vraiment Kuala Lumpur, c'est une ville mall. Il n'y a que des malls.
Alors, on vous dit qu'en Malaisie, on adore magasiner. Il y a tellement de magasins que les enseignes se cannibalisent. Pouvez-vous fermer les yeux 2 minutes, là, Rini Grémaud, et nous dire ce que vous voyez à Kuala Lumpur, dans l'ambiance qu'on entend en ce moment?
Alors moi, ce que je revois, je veux dire, et l'image la plus marquante de Kuala Lumpur, c'est que j'y étais pas longtemps avant le Nouvel An chinois. Et puis, le Nouvel An, mais aussi toutes les autres fêtes, hein, ça peut être Noël, la Saint-Valentin, enfin n'importe quoi, toutes ces fêtes-là sont maintenant prétexte à redécorer le mall. Alors là, en l'occurrence, c'était des lampions rouges absolument partout, et puis des figurines... il me semble que c'était l'année du cochon quand j'y étais, donc des figurines de cochon. Peut-être que je me trompe, peut-être que ma mémoire fait défaut, mais en tout cas des gros cochons en or et des lampions rouges, voilà ce que je vois.
Le plus grand mall d'Afrique se trouve à Casablanca, avec une ambiance, je suppose, un peu plus... particulière ou non, c'est toujours pareil?
Alors, je dois dire que c'est un peu toujours pareil. Enfin, disons, l'intention des gens qui construisent ces malls, c'est effectivement partout pareil, du loisir, des soldes, des grandes marques de luxe, mais aussi des marques accessibles à monsieur et madame tout le monde. Ce qui était très particulier à Casablanca, qui était en tout cas à l'époque le plus grand mall d'Afrique du Nord, et sans doute que tout ça et tout ce que je dis dans le livre a pu changer, puisque j'ai fait ce voyage quand même en 2014. Casablanca, ce qui était très particulier, c'est quand même que la classe moyenne n'est clairement pas suffisante pour rendre un mall de cette taille-là rentable. Voilà. Donc, il était un peu vide, en fait, ce mall, quand je l'ai visité.
Vous décrivez ce voyage sans agrément, sans destination finale, comme un manifeste. Et vous dites à la fin de votre récit que c'est un voyage lapsus. Qu'est-ce que c'est un voyage lapsus, Rémi ?
C'est un voyage dont je pense que j'ai compris la nécessité qu'une fois que je l'ai accompli. C'est-à-dire que, comme je le dis au départ, je pense qu'au moment où j'ai conçu le projet, c'était un peu une manière de fuir la vie que j'avais sur le moment, c'est-à-dire aussi une vie de jeune mère. Enfin, c'était un moment un petit peu, un petit peu compliqué où j'avais besoin de partir. Ouais. À Lausanne, ville très très moche. Ouais. Voilà. c'est au moment où je l'ai écrit que je me suis rendu compte que finalement, dans l'idée du voyage, dans l'idée de l'uniformisation du monde, il se passait plein de choses dans ma tête. Et puis, un voyage lapsus, c'est un voyage dont on ne comprend pas forcément tout de suite la signification, mais ça a fait son chemin.
Bon, voilà, il est concrétisé en tout cas ce voyage avec ce livre, Un monde en toc, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Rini Grémaud. Vous allez repartir quelque part, non? Les parcs d'attractions maintenant,
je pense qu'il ne faut plus que je fasse ce genre de voyage parce que vraiment, c'est trop fatigant. Mais là, je reviens de Corée et puis je vais peut-être repartir de l'autre côté du monde.
Bien,
peut-être
merci. Merci. Rini Grémaud, une auteure à suivre. Merci à vous.
Merci.
Et la chronique des libraires pour terminer cette émission. Tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Annick Dor en Belgique, un coup de gueule dans le rayon des bandes dessinées.
Oui,
pour un album dont on parle beaucoup, hein, qui a reçu l'assentiment de la critique, c'est Le Cœur des Amazones, qui est paru chez Casterman. Oui. Alors si Christian Rossi, qui est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, fait ici une fois de plus un travail graphique vraiment remarquable, avec des lavis sépia très très lumineux, en revanche, pour moi, le scénario qu'on doit à Géraldine Bindi, bah, il tient malheureusement pas ses promesses. C'est lent, c'est un petit peu décousu, c'est finalement assez convenu. Et voilà, donc c'est dommage parce que le sujet à la base était plutôt original et le graphisme vraiment très réussi.
Et pourtant c'est raté, c'est ça ?
Voilà, enfin, c'est dommage quoi. C'est
le Cœur des Amazones aux éditions Casterman. Merci Annick, on reste dans le monde de la BD avec un coup de cœur, Dominique Bressou.
Oui, un très très gros coup de cœur pour V-End de Zep aux éditions Rue de Sèvres.
On en parlait la semaine dernière, figurez-vous.
Mais oui.
Avec Laura Sanchez qui avait attaqué Zep. J'avais pris sa défense.
Mais oui, parce que
ça,
le titre était en anglais. Mais en fait, ça ne doit pas rebuter les lecteurs. Surtout pas. Parce que c'est une BD splendide, passionnante et qu'on lit d'une traite. On est dans le thriller écologique avec des scientifiques plus vrais que nature. Et sans rien vous révéler, à la fin de l'histoire, ce qui est sûr, c'est que vous ne verrez plus jamais les arbres de la même façon.
Et ça s'appelle comment donc ?
Vienne.
Moi, je ne peux pas prononcer ce genre de mots.
La fin.
La fin de Zep aux éditions Rue de Sèvres. Merci Dominique. En France, Thomas Auxerre, un coup de quoi ?
Eh ben, un coup de cœur, cette fois, pour un livre, un roman de Sylvain Poudrome qui s'appelle L'Affaire Furtif. Alors, ce livre, Emmanuel, je vous dis tout de suite, c'est un ovni littéraire. Vous allez suivre une bande de fous furieux. Il y a des artistes, des scientifiques qui montent tous à bord d'un voilier nommé donc Le Furtif. Et ce voilier s'en va vers des petites îles inhabitables du pôle sud. Alors, pourquoi, comment, que deviennent les survivants? Bon, ça, je vous le dis pas, Emmanuel, vous découvrirez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman génial. Franchement, ça mélange très habilement les genres. Il y a une sorte de fausse romançonnade, c'est un roman d'aventure philosophique. C'est aussi une réflexion un peu folle sur l'art et la création. Moi, l'auteur m'a cueilli, mais alors dès le début. Hein. Et ce livre, j'ai envie de dire, c'est quasiment un coup de bluff. En plus, un coup de bluff réussi, parce qu'il vous tient en haleine jusqu'à la fin. Et en plus, celle-ci est surprenante.
Bien, très bon auteur, hein, Sylvain Prudhomme.
Ah, j'adore, ouais.
Fantastique, oui, vraiment, il faut lire Sylvain Prudhomme. L'Affaire Furtive, donc, c'est son nouveau roman aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète. Merci Thomas, on termine avec le Canada et un coup de gueule, Marie Hélène Vaugeois.
Oui, un coup de gueule sur les embargos. Il n'y a pas grand-chose de plus agaçant qu'un représentant qui nous appelle en nous disant « Un livre va sortir, ça va être la bombe. » Mais je ne peux pas te dire ni l'auteur, ni le sujet. On peut juste assurer qu'il va avoir parlé partout et qu'on va en vendre des tonnes. Alors, on nous donne une quantité à l'aveugle et pour finalement réaliser que ce n'est qu'un gros pétard mouillé. Le dernier en date ici, c'est « Jeux de coulisses » d'Annie Trudel aux éditions de l'Homme.
Bien, voilà. Au moins, c'est clair. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bon courage dans vos librairies. Ce n'est pas un métier facile. Hein. Merci. Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le rappeur québécois Laude avec un extrait de 56K.
I keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous disiez des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speeda. Hello, téléphone on whoever keeper. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse. Yes. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes.
Le Canadien de Montréal, Loude, 56K, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Loïc Frapsos et Julien Dumont. Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Le Putain en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, Ernest Pignon-Ernest, la grande poétesse québécoise Hélène Dorion, l'écrivain algérien Yahya Belaskri et nous parlerons football avec une
une grosse surprise. Et oui, c'est bientôt la Coupe du Monde. Avis aux amateurs ou pas. Bonne semaine, bon week-end, à bientôt.